Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du President's Club. Chez Rocket for Sales, nous avons lancé ce podcast car nous sommes extrêmement privilégiés. Nous rencontrons des personnes d'exception ayant un parcours remarquable dans la gestion d'équipes commerciales dans l'univers des logiciels. Vous avez écouté la première partie avec Amaury Martin, maintenant nous allons passer à la deuxième section de notre échange. Et je vous invite à écouter la dernière section sur le conseil de carrière qui est peut-être l'un des meilleurs que l'on ait eu, ce podcast du President's Club. Je ne vous en dis pas plus, voici la suite de notre échange avec Amaury Martin.
Et là, on passe un peu à la version 2 et à la suite logique de tes conseils sur le management 2.0. Un point qui est souvent soulevé, c'est de faire collaborer les gens, et plus particulièrement dans les équipes sales, parce que c'est un job assez individualiste hein, au final, avec des intérêts divergents. Tu peux avoir des territoires un peu houleux, etc. C'est quoi ta vision sur la partie collaboration avec tes équipes externes internes?
Alors ça, c'est une question hyper intéressante. Parce que, on disait tout à l'heure, on quitte un manager, pas une entreprise. Donc, comme vous l'avez compris de ce que j'ai dit, moi je dis attention, un manager, il peut y en avoir aussi des très bien, ou alors des pas bien, mais restez dans l'entreprise parce que l'entreprise peut vous aider à vous développer, c'est très important. Mais c'est le lien total. Si tu veux, comment faire collaborer des gens aux intérêts divergents? Pour moi, déjà, il faut mettre un nom sur la collaboration. Le problème que l'on a aujourd'hui dans les grandes sociétés, c'est qu'on a tendance à siloter les tâches. Donc il y a des gens qui, si je parle à des sales aujourd'hui, hein, qui génèrent des leads, il y en a qui vendent, il y en a qui implémentent, et il y en a, on va dire, qui soutiennent et qui développent le client, pour le scinder comme ça. Dans certaines entreprises, la direction qui manage ces points-là est différente. C'est deux personnes, voire trois personnes différentes, un patron des BDR ou des SDR, un patron des ventes, un patron de l'implémentation et un patron du service client. On peut avoir quatre patrons pour les quatre BU. Le deuxième élément, c'est que les KPI sont divergents. Un sales va être rémunéré peut-être sur la valeur de son deal sur 3 ans, alors que le BDR avant lui, c'est simplement sur la création de l'opportunité. Et il n'est pas incentivé sur le montant de l'opportunité qui est ouverte. Alors que la personne à l'implémentation, elle va être impactée par le prix auquel a été vendue l'implémentation, alors qu'elle n'a pas eu la main dessus, et en plus sur le délai de livraison. Donc en fait, on se rend compte qu'on est ici dans un schéma à multidimensionnel. Vous avez 4 métiers, 4 directions différentes, et potentiellement 4 ou 5 KPI différents d'un point de vue de la rémunération, et de la reconnaissance. Donc ça génère un problème énorme. Et c'est là où je dis, pour faire collaborer des gens aux intérêts divergents, il faut un cadre, il faut un leadership ou un manager qui ait conscience de ces 4 étapes-là et qui arrive à faire comprendre aux gens que chacun est un maillon de la chaîne et que cette chaîne est ininterrompue. C'est-à-dire que si un BDR s'en tient à son métier de donner envie à une personne d'aller plus loin, et qu'il transmet un bon lead à un commercial, que ce commercial ne survend pas la plateforme, mais qu'il vend ce dont le client a besoin, une vraie vente conseil, un very trusted advisor, comme on dit en anglais, mais une vraie vente conseil, alors ça générera normalement derrière une bonne implémentation. Parce que le client n'a subi aucune, comment dire, erreur ou aucun changement entre le premier call qu'il a eu avec une personne et le dernier. Je fais juste un exemple, mais j'ai déjà rencontré des clients qui m'ont dit, Monsieur Martin, on a signé un très beau contrat aujourd'hui, mais sachez que s'il y a 6 mois en arrière, cette personne-là ne nous avait pas appelé de son call-call, eh ben, on se parlerait pas aujourd'hui et elle avait fait un excellent travail. Donc, tu te rends compte 6 mois après, quand le deal est signé, de l'impact de la première personne qu'ils ont eu au téléphone. Et j'ai déjà eu l'inverse en tant que commercial où, arrivé au bout de 6 mois de négociation, la personne me dit, mais attendez, c'est pas le prix que j'attendais. La personne que j'ai eu au téléphone il y a 4 mois m'a dit tel prix. Et là, vous m'annoncez ça. Donc c'est là que tu te rends compte de l'impact positif comme négatif d'une personne en début de chaîne. Donc si l'implémentation se passe bien et que derrière le suivi client est bon, eh ben ça veut dire qu'on pourra avoir demain des clients références qui aideront les BDR, puisque la boucle se boucle à dire ben vous voyez, je vous appelle parce qu'on a tel succès avec telle entreprise, et un succès en entraînant un autre, ça permet de faire comprendre aux gens qu'ils sont en fait les maillons d'une chaîne qui a été interrompue. C'est vraiment très, très important.
Ouais, du coup, je comprends cette partie-là où, du coup, de bien expliquer aux équipes l'impact de chacun dans tout le cycle de vie du client. Mais du coup, il y a forcément des intérêts divergents, des équipes qui sont sur des territoires peut-être un peu connexes ou qui ont des objectifs qui ne sont pas forcément bien calés entre eux. Comment tu gères ça, en fait?
Tout à fait. Donc c'est à gérer au quotidien. C'est, je pense, quand tu es un manager, c'est ce qui te prend le plus de temps. Donc, comme je le disais, le point numéro un déjà, c'est qu'appelle-t-on collaborer. Quand tu es dans une entreprise qui dit dans ton CRM, tu peux pas voir ce que fait ton voisin, ou dans ton entreprise, dont le CRM est ouvert, vous pouvez chasser chacun les clients, déjà, tu n'envoies pas le même message. D'accord? Comme je l'ai dit juste avant, la structure de la société, voilà, peut aider ou ne pas aider à collaborer. Pour autant, le point numéro 2 dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était les intérêts divergents à cause des silos qui sont créés dans l'entreprise, il faut se rappeler qu'en fait, une entreprise est un système, d'accord ? C'est un système, et pour ceux qui nous écoutent et qui ont des notions de systémique, un système est fait pour se survivre. Toi et moi, Clément, on a un corps humain, on dit que notre température moyenne, c'est à peu près 37,5, mais si t'es au soleil en même temps que tu me parles, t'es peut-être à 38. Pour autant, t'es pas mort, hein, mais t'es à 38,5. Et moi qui ai mis la climatisation, je suis à 35. Et pour autant, je survis. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des respirations. Notre système a parfois un peu chaud et un peu froid. Et le point médian, ce qu'on appelle le point d'homéostasie, là où il se sent le mieux, c'est 37,5. Eh ben, une entreprise, ça fonctionne pareil. Et la collaboration entre les équipes, ça fonctionne pareil. C'est-à-dire que ça va chauffer de temps en temps entre les sales et l'implémentation parce qu'en effet, on a survendu. Ça va peut-être être un peu glacial, les relations entre les BDR et les sales, parce que ça fait 10 fois qu'ils envoient un lead et les sales l'acceptent pas. Pour autant, le point médian, c'est quand à la fin du quarter, tout le monde a quand même réalisé l'objectif. Si en tant que leader ou manager, tu sais expliquer à tes équipes que chaque équipe dans l'entreprise fonctionne en système, et que les personnes doivent être au courant de ça pour comprendre le langage de l'autre et comprendre les intérêts de l'autre, alors là, tu peux commencer à créer de la collaboration. Parce que, je le disais souvent, moi, j'ai eu la chance de vivre deux rachats et aussi d'être chez SAP, chez Concur, qui est une entreprise qui avait été rachetée il y a 5 ans et qui fonctionne un peu encore dans sa bulle. Ce dont je me rends compte, c'est qu'il existe une énorme différence entre être intégré et être en interne. C'est-à-dire, tu as une différence entre intégration et collaboration, pardon. Quand t'es intégré, ça veut dire que si par exemple ton entreprise c'est les bleus, on fait rentrer les oranges dedans. Là t'es inclus, pardon, voilà, inclusion. T'es inclus, c'est-à-dire les oranges, ça y est, ils arrivent dans les bureaux, ils sont nouveaux. La vraie intégration, c'est le niveau 2, c'est quand on commence à prendre des oranges pour les mélanger avec les bleus. Et des bleus pour les mettre chez les oranges. D'accord? Et ça prend beaucoup de temps, et c'est une notion de systémique, et il est important de savoir quand on est un commercial ou peu importe le rôle qu'on a dans la société, qu'on participe à un système et qu'on est là pour le faire survivre à lui-même. C'est très important.
Là, on a parlé de systémique, d'enlever effectivement les silos, de faire travailler les gens ensemble. En gros, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui interviennent pour faire en sorte que les gens puissent travailler ensemble?
Ben moi, je pense que c'est vraiment voilà. On part de ce point. Qu'est-ce que collaborer? Au-delà de travailler ensemble, collaborer, c'est vraiment se donner la main et essayer d'être conscient du système de l'autre. Donc c'est le point numéro 2, c'est-à-dire c'est être capable de passer le cap des intérêts divergents. C'est être capable de dire moi en tant que commercial, je suis prêt à vendre un peu plus cher là-dessus, quitte à allonger mon cycle de vente et à m'engueuler un peu avec le client. Mais au moins, je sais que mon implémentation derrière sera contente et j'ai respecté le PNL. Donc, collaborer, c'est vraiment ça. C'est aller au-delà des intérêts divergents. Donc, ça m'emmène au point numéro 3. Qu'en fait, comment on fait collaborer des gens aux intérêts divergents? Ben, il faut avoir une vision d'entreprise commune. Il faut avoir des valeurs vécues au quotidien. Et il faut une exécution parfaite. Qu'est-ce qui amène les gens à travailler les uns pour les autres, bien que leurs intérêts d'un point de vue administratif, les KPI sur lesquels ils sont notés et leur feuille de paye varient. C'est simplement que ils ont une vision d'entreprise commune. Ils ont l'envie ensemble de donner du sens à ce qu'ils font et ils se disent, OK, si moi aujourd'hui j'exécute bien, je vends bien, alors demain on va croître. Et la personne qui implémente, si j'implémente bien, alors demain on va favoriser l'adoption du client. Et la personne qui gère l'adoption, si moi j'arrive à faire croître mon client et faire en sorte qu'il soit content, je vais peut-être arriver à prolonger son contrat et son intérêt chez nous. C'est dans cette notion de valeur. Et moi, je me souviens, j'avais été très, très marqué à l'époque chez Exact Target. En 2013, c'était très, très disruptif. J'arrive à Indianapolis pour mon training de 3 semaines. Et quand tu as vu Indianapolis, tu sais que 3 semaines là-bas, ça peut être très long. Mais j'ai compris en fait tout de suite la puissance de ce qu'était une vision d'entreprise commune et des valeurs vécues. Il existait 9 valeurs au mur, et j'en citerai que 2 ou 3, qui étaient « treat people well », donc traite bien les gens, « act as an owner », voilà, agis tous les jours comme si c'était ta boîte, et « be easy to do business with », soit quelqu'un de facile avec qui traiter. Il y en avait 7 ou 8 autres accrochés au mur. Les gens, dans les bureaux, transpiraient ces valeurs. Du premier jour où on nous a fait le welcome, au dernier jour où j'ai quitté, mais même au moment où on a été racheté, le directeur général, je pense, en était même le plus grand ambassadeur. Sa porte était ouverte, son assistante était là pour aider. On pouvait collaborer de manière excessivement saine parce qu'il y avait un socle de valeurs qui était très fort et qui était très bien entretenu par le management, malgré les différentes strates de management. Et ça, je pense que c'est très fort. Donc, avoir une vision d'entreprise commune et surtout l'exécuter, et on en revient à l'exemplarité dont j'ai parlé tout à l'heure, permet en effet de faire en sorte que les gens collaborent, bien qu'ils aient, ou bien qu'on les mette dans des KPI et des intérêts qui paraissent divergents. Je pense que la route commune peut se trouver dans le sens de la collaboration à partir du moment où on met du sens dans ce qu'on fait et que la vision de l'entreprise et que les valeurs sont vécues au quotidien.
Super, merci beaucoup Amaury, c'est super intéressant de voir aussi que tu as évolué dans des boîtes très inspirantes. Effectivement, je suis passé également chez LinkedIn et ça reflétait un peu ces thématiques de leadership. Et je me souviens d'une des thématiques qui était act like an owner. On le répétait à peu près 10 fois par jour.
Bien sûr.
Donc ça, c'était super intéressant. Là, on va passer à la dernière question. Et c'est un peu notre petit péché mignon. C'est quel conseil de carrière on t'a donné? Parce que je pense que pour être à 30 ans GM d'une des boîtes rachetées par SAP, on a bien dû te conseiller dans ta carrière. Est-ce que tu as un conseil qu'on peut donner aux auditeurs qui peuvent les aider dans leur développement?
Oui, j'en donnerai même 2. Le premier, c'est être soi-même, c'est-à-dire, moi, j'ai très vite dans ma carrière, je pense, pas joué un jeu. J'arrivais de Toulouse à l'époque, je faisais mon école de commerce sur Paris, les gens me faisaient un peu répéter les mots pour rigoler de mon accent, et en fait, à un moment, plutôt que de rentrer dans le moule, j'ai décidé de m'accepter comme je suis. J'ai grandi 15 ans à Toulouse, je suis estampillé, fête de Dax, magret de canard et rugby. J'exagère un peu, mais voilà, et ça a fait ma force aussi, ça veut dire que on est qui on est, et on doit se créer son propre personnage. J'ai une mentor ici chez SAP qui s'appelle Kathleen Muller qui dit « Create your own brand ». Voilà, c'est quoi ta marque? Et ça m'emmène au sujet numéro 2. Moi, j'avais une marque personnelle qui est basée en effet sur le fait que j'ai joué 15 ans au rugby, que j'ai un sens quelque part de l'inclusion, une éthique particulière de travail. J'ai toujours été très, très respectueux des équipes avec lesquelles je travaillais, peu importe leur niveau hiérarchique. Donc voilà, ça c'est très personnel, c'est une éducation que t'as ou que t'as pas, mais voilà, sois toi-même, c'est le chemin numéro 1. Et le deuxième, c'est build your brand, et là je reprends les termes de Kathleen Muller. Build your brand, ça veut dire, quand on parle d'Amaury sur LinkedIn, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qui se dit? Voilà, c'est tout. Donc ça, construire sa marque personnelle, ça c'est très important. Et je pense que ma marque personnelle pendant des années, bon, c'est encore le cas, mais ça a été, ce mec-là, il est overachiever. Il est commercial, il sait vendre du SaaS, il est maintenant manager, il est manager international, il peut en plus mentorer des jeunes et faire des équipes. Il a connu des situations où on lui a demandé quelque part de start from scratch et d'autres où on lui a demandé d'exécuter dans le plan tel que c'était, comme chez Salesforce, où voilà, t'as pas vraiment ton mot à dire. Chez Marcy, son Margano, on m'a dit, Amaury, t'as ton mot à dire et on attend et on t'écoute là. Voilà, tu vois. Donc voilà, soyez vous-même. Et construisez votre marque. Voilà.
Merci beaucoup. Et un point que j'apprécie notamment, c'est le build your own brand. Souvent, c'est assez oublié cet aspect-là. Et alors que je pense que ça fait partie intégrante d'une bonne stratégie de carrière au final. Et ça a un impact relativement important sur la suite. Donc un grand merci pour ce tuyau dessus. Donc du coup là l'épisode s'achève. Si on veut te contacter, comment on fait? On te contacte via LinkedIn? Quel est le meilleur moyen?
Alors en effet, le meilleur moyen, c'est vrai que je passe quand même mes journées moi sur LinkedIn. Vous pouvez me connecter sur LinkedIn à Maurice Martin, tout simplement, et m'écrire en direct. Avec grand plaisir, je vous répondrai sur les sujets dont on vient de parler là. Et sinon, je vous invite à suivre ma chaîne coach-m sur LinkedIn aussi. Et vous pourrez regarder, pour ceux qui auraient raté peut-être les premiers épisodes, les interviews de sportifs de haut niveau, athlètes olympiques ou anciens champions de rugby, et d'autres surprises à venir là très prochainement, pour vous inspirer voilà de leur vécu dans votre quotidien, et aussi mes petites vidéos billets d'humeur, soit pour du coaching de vie, soit pour du coaching business. Mais voilà, ravi de d'échanger avec vous très prochainement sur LinkedIn, sur Instagram aussi, et sur YouTube, avec grand plaisir.
Super, merci Amaury, merci, à bientôt.
À très bientôt Clément, et merci infiniment.
Tout d'abord, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, et nous espérons que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et nous faire part de vos commentaires qui nous aident bien entendu à grandir. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du President's Club.